le mercredi, c'est le cinéma avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Dites-moi Louis-Marie, on ne peut pas délocaliser l'émission dans la cour, au soleil, tranquillement.
On pourrait.
Être enfermé dans le studio.
On pourrait. Les auditeurs ont l'habitude de bruit autour de nous, hein. Rappelez-vous, il y a quelques semaines déjà, nous étions avec le public.
Exactement.
De Traverse Vidéo. Là, ouais. Pourquoi pas? Parce que là, on ne serait pas dérangé par le public, simplement par les oiseaux.
Et autres
petites bestioles qui tourneraient autour de nous.
C'est ça.
Mais oui, que voulez-vous? Ça demande un matériel technique qu'il faut descendre.
Ouais,
c'est
oui.
Un peu compliqué, ouais, tout ça. Mais vous, pas de problème pour venir jusqu'à nous. Vous enfourchez votre vélo. Ou
exactement.
Vous marchez, ou
ouais,
les deux.
C'est le
vous
vélo
poussez
qui
votre vélo.
Je sais pas exactement. Mais...
Dites-nous, vous allez nous conseiller des films à voir à la télé?
Et oui, parce que le soir, on a envie de se reposer tranquillement, après une bonne journée de travail. Et voilà, donc une sélection de 3 films cette semaine pour le cinéma à la télévision. C'est pas beaucoup, mais bon, ça va, c'est des bons films. Et un petit conseil Blu-ray DVD qui vient juste de sortir, il est tout chaud là.
Il faut faire attention encore.
Il faut laisser refroidir un petit peu.
Voilà.
La galette est encore chaude.
La galette est encore chaude à consommer une fois qu'elle aura un petit peu refroidi. Il est avec nous, enfin, le revoilà. Toutes ces admiratrices nous assaillaient de questions, de messages,
oui,
nous agrippaient chaque fois que nous passions pour arriver jusqu'à la radio, dans les studios, pour avoir de vos nouvelles, Guillaume Sidom. Comment allez-vous?
Eh bien, ça va mieux. Merci Louis-Marie, merci Laurent Martin et merci aux nombreuses lettres. J'ai écouté la semaine dernière et voilà, très bonne émission.
Ouais.
Et celle d'aujourd'hui va être encore meilleure.
Mais oui, puisque vous êtes là, ça sera encore meilleur.
Voilà, exactement.
Alors, votre retour de manivelle, vous qui êtes le spécialiste de la mécanique cinématographique, de quoi va-t-il être question ce soir?
Ce soir, entre Gravité et Légèreté, un film emblématique de la nouvelle vague et subtilement féministe d'une grande réalisatrice, et on pourra le retrouver au Pathé Wilson à Toulouse.
Ah, on a suffisamment d'infos pour se faire une idée. On n'a pas trop longtemps à patienter pour savoir de quel film il est question, mais on est sur la bonne voie grâce à vos indications savantes. Guillaume Sidom, avec nous également au tribunal des séries, Grégory Com, qui ce soir enfile à nouveau sa robe d'avocat. La semaine dernière, on était un petit peu entre les deux. Il était partisan de Zero Day, la série qu'on peut voir, dans laquelle joue Robert De Niro.
Oui.
Il n'était pas totalement convaincu, mais il l'aimait
malgré tout. Il fallait pas voir les deux premiers épisodes, c'est ça qu'il avait dit.
Oui, c'est ça. C'était un peu trop délayé.
Voilà,
Il y avait trop d'informations. Alors ce soir, va-t-il en être de même? C'est pas sûr. Il va nous parler de 1923.
Ah oui.
Le préquel de la série Yellowstone, qui a formidablement bien marché. Mmh. C'était sur Netflix et Paramount. Et 1923, c'est sur Paramount+. C'est dans cette série, on retrouve Hélène Mirren et Harrison Ford. Ce soir, dans le panier de l'ouvreuse, en plus de toutes les belles choses que vous allez nous raconter, eh bien, il y aura l'affiche de la semaine que vous allez scruter avec l'ouvreuse, Laurent Martin. Il y aura les reprises sur les grands écrans avant vos reprises sur le petit, on vient tout juste de l'évoquer. Et puis, on aura des coups de cœur, bien sûr, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des expositions aussi qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Laissons passer les sifflets de Clint pour retrouver notre séance de cinéma. Tout de suite, vous savez qu'on regarde un film, et celui-ci, pas de problème avec les sous-titres, c'est en version française.
C'est trop difficile à chanter, ça, j'y arriverai jamais.
Bon, alors...
Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté, et ton compte en banque ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais. Moi perfidement, je t'ai menti. Je t'ai menti.
Non, c'est pas moderne ça. L'air d'avant, il est mieux, il est plus...
Typique.
C'est ça. Bon, ben, je vais l'apprendre. Quoi d'autre?
Moi, je joue.
À quoi?
Moi, je joue, c'est une chanson. Tout à fait pour vous. C'est facile comme tout.
Il joue du violoncelle, tu joues du piano droit.
Violoncelle, piano droit, on chante, on apprend à chanter, on propose des chansons, mais que se passe-t-il donc dans le film dont vous allez nous parler, Guillaume Sidom?
Oh, de bien belles choses, Louis-Marie, pour Cléo de 5 à 7, film d'Agnès Varda de 1962 avec Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davré, musique insignée du grand Michel Legrand, sans doute le plus beau film de la réalisatrice disparue à 90 ans en 2019. Le titre coquin vous cache élégamment la gravité de la situation. Cléo attend en effet confirmation d'un diagnostic médical des plus angoissants. La mort plane sur les 2 heures à tuer avant le rendez-vous à l'hôpital parisien de la Salpêtrière. Comment continuer à vivre lorsque la maladie vous guette? C'est avec son deuxième long métrage qu'Agnès Varda obtient peut-être son premier grand succès critique et commercial et acquiert une renommée internationale bien méritée. Réalisé donc en 1962, Cléo de 5 à 7 est en effet un chef-d'œuvre du cinéma français. Il s'ouvre sur le plan d'une table et la voix d'une voyante qui va tirer les cartes à une jeune femme, Cléo, interprétée par la magnifique Corinne Marchand, tandis que le générique défile sur l'écran en couleur, alors que le film sera, lui, en noir et blanc. Puis Cléo quitte la pièce, descend les escaliers de l'immeuble sur une musique toujours de Michel Legrand, et après s'être regardé dans un miroir, le premier du film, qui en comptera beaucoup, sort dans la rue de Rivoli et marche parmi des étals de marchands filmés de loin en plan séquence.
Mais que se passe-t-il donc dans ce film-là?
Eh bien, l'action se déroule donc en temps réel le 21 juin, entre 17h et 18h30, Paris, rive gauche, de la rue de Rivoli au dôme de Vavin, au parc Montsouris. Cléo, une jeune chanteuse, attend donc les résultats d'un examen médical. Sa peur d'avoir un cancer contraste avec sa vitalité frivole et la lumière estivale qui inonde la capitale. Les visites de ses amis peu compatissants et de son amant distraitement tendre ne la consolent guère. Elle décide alors d'aller offrir un chapeau à une amie, la laisse rapidement et erre dans les rues en proie à une angoisse grandissante. Dans un parc, elle va rencontrer Antoine, un soldat en permission qui lui aussi attend d'importants résultats médicaux. Les deux êtres vont se lier d'une amitié solide et s'apprêtent donc à affronter la dure réalité. Tourné dans l'ordre chronologique du scénario, découpé en courts chapitres numérotés, le film vous fait ressentir le passage inexorable du temps. Les séquences sont donc minutées dans un temps réel et sont techniquement différentes suivant qu'elles vous décrivent un personnage ou un autre. Chaque chapitre porte le nom d'un personnage. Sans beaucoup de moyens, la cinéaste transcende le cinéma vérité par son art du montage et de la composition, et vous suivez donc les pas de Cléo au rythme de ses peurs, de ses frayeurs dans la capitale. 2 heures d'errance, de rencontres et surtout de combat intérieur, le tout filmé dans un noir et blanc percutant. Et dans ce film, vous notez bien que c'est le blanc qui est tragique. Imaginez alors que la mort est une dissolution dans la lumière, la mort devient blanche, et dans le film, le langage de gris et de noir a toujours tendance à donner un aspect tragique au blanc. Agnès Varda invente une forme ouverte au cinéma, celle d'un film de fiction capable de vous faire entrer dans l'époque par le son. Les informations émanent donc d'un autoradio.
Cet émouvant portrait de femme incarné par la sublime Corinne Marchand se double d'un poème sur la beauté qui voisine avec la mort, Guillaume.
Oui, dans une scène pivot au beau milieu du film, Cléo, qui répète au piano avec son musicien, on l'a entendu, et son parolier, interprète la chanson « Sans toi ». Le décor disparaît devant vous et la caméra enregistre la performance de Corinne Marchand. Gros plan intense de son visage blanc sur fond noir. Varda signe un véritable blason poétique joué et chanté qui sublime à la fois son actrice et la chanson. chanson composée par Michel Legrand pour cette chanson, l'une des plus belles sans doute de l'histoire du cinéma. Cléo de 5 à 7 est éternellement à la mode, comme sa belle héroïne sur un fil, silhouette à la Kim Novak et chic parisien de toujours. Agnès Varda, dont c'est le deuxième long métrage, était déjà une ingénieuse, créatrice de formes en 1961. Tous ses documentaires, fictions et installations ont en effet une architecture conceptuelle, et dans Cléo de 5 à 7, elle filme donc d'abord un compte à rebours. Elle explore la dictature banale et fantastique des minutes marquées en surimpression ou bien sur les horloges et les montres partout et miracles. La rigueur du style, la contrainte du chronomètre et la possibilité du pire libèrent le personnage. Vous croyez assister à l'invention de l'héroïne moderne, la chanson yéyé, chanteuse yéyé, métier de Cléo, égocentré et narcissique. Des premières scènes cèdent peu à peu la place à une autre femme, non plus objet, mais sujet, qui regarde, qui écoute, qui se laisse enfin atteindre par les autres. C'est l'histoire inoubliable d'une transfiguration, une œuvre phare de la nouvelle vague, d'une grande force poétique qui est plus de 60 ans après sa sortie, n'a rien perdu de son charme. À retrouver donc ce jeudi 10 avril à 19h30 au Pâté Wilson de Toulouse, dans le cadre de la Galaxie Varda, en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse jusqu'au mercredi 30 avril prochain. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèquedetoulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Arte Éditions. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Avant d'écouter Sans toi, Corinne Marchand, Michel Legrand, on va écouter un document assez rare, une interview d'Agnès Varda qui parle de Cléo, son film, celui dont vous venez de parler. Guillaume Sidom, elle est interrogée par Maurice Wellin et c'est pour la RTS, la radio-télévision suisse.
Avec Cléo de 5 à 7, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Un documentaire, une étude psychologique ou bien simplement un portrait de femme ?
C'est plutôt l'idée d'un portrait de femme situé dans un documentaire, c'est-à-dire le documentaire décrivant autant la femme que son comportement personnel.
Est-ce que ce film répond exactement, enfin dans sa réalisation, à ce que vous en aviez imaginé au départ ?
Ah oui, c'est assez, même le premier film que j'ai fait où j'ai l'impression qu'il y a très peu de décalage entre le projet et le film fini.
Magnifique chanson d'amour, Corinne Marchand, Michel Legrand.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Laurent, vous scrutez l'affiche de la semaine avec l'ouvreuse.
À l'affiche cette semaine, Mikado, le nouveau film de Baya Kasmi avec Félix Moati, Vima Laponte et Ramzi Bedia. Alors, c'est l'histoire de Mikado et Laetitia hein, qui vivent avec leurs enfants sur les routes. Et une panne de moteur les amène à s'installer le temps d'un été chez Vincent, un enseignant qui vit seul avec sa fille. C'est le début d'une parenthèse enchantée hein, qui pourrait aussi bouleverser l'équilibre de toute cette famille. Alors, quelle est la meilleure éducation possible pour ces enfants? Quelles sont les limites du choix de vivre volontairement dans la marginalité hein, pour protéger les siens de la violence du monde? Voici les questions qui dominent le nouveau film de Baya Kasmi, à qui l'on doit, rappelez-vous, Youssef Salem a du succès. Et c'est le premier film écrit sans Michel Leclerc, hein, qui préfère ouvrir des supermarchés. Et le premier aussi où, sans qu'elle soit absente, la comédie n'en dicte pas moins le tempo. Car ici, le ton se fait plutôt doux amer, voire mélancolique, épousant les fluctuations d'humeur de ces personnages, à commencer par celui de Mikado, donc, incarné par Félix Moiti. Mikado, vous savez, c'est ce fameux jeu hein, des petites baguettes, comme ça, c'est aussi des gâteaux, Guillaume.
Oui, très bon gâteau.
Que vous connaissez bien. Consommer avec modération. Donc oui, alors à commencer par Mikado, qui est un gamin de la DAS, qui est devenu un trentenaire plutôt écorché vif, et qui porte toujours en lui les stigmates d'une enfance difficile, en souffrance, et passé dans une famille d'accueil, une famille d'ailleurs qui ne cesse de harceler pour qu'elle reconnaisse ses torts, et qui va finalement porter plainte contre lui pour harcèlement, et donc il va obliger Mikado et sa famille à prendre la route en camping-car avec sa compagne, incarné par Vima Laponte, et puis donc leurs deux enfants, tout ça pour échapper à la police. Donc c'est un road movie, bien sûr, qui commence. Ils vont tomber en panne et donc ils vont rencontrer le fameux Vincent, hein, qui est prof. Et donc c'est dans un chemin, donc après cette panne, qu'ils rencontreront Vincent, hein, cet enseignant qui vit seul avec sa fille, dans une très belle maison. Ils vont s'installer donc le temps d'un été qui remettra en cause les certitudes de chacun. Baya Kasmi signe ici un film sous une tension d'autant plus lancinante qu'elle contraste avec la douceur apparente des échanges et puis le parti pris d'une lumière chaude et sensuelle. La qualité d'écriture des personnages, cette manière de raconter leurs contradictions sans se faire avocat ou procureur ou juge, rendent ce récit plutôt attachant, sans verser non plus dans la sensiblerie. Vraiment un pas de côté remarquablement interprété. Petite revue de presse sur ce film, la générosité qui se dégage de Mikado a quelque chose de franchement galvanisant. Baya Kasmi entoure ses personnages d'une bienveillance maternelle et d'une tendresse de grande sœur, donnant envie de les aimer malgré leurs failles, ou peut-être même grâce à elles, selon première. Un drame nuancé et joué avec justesse, selon Lacroix. Télérama moins aimé, un film à l'univers singulier et secret, plombé par les maladresses du scénario. Petit bémol aussi pour le Figaro, on ressort de Mikado perplexe, agacé d'avoir enduré les errances d'un long métrage qui ne sait jamais sur quel pied danser. À l'affiche aussi cette semaine, messieurs, je vous amène à la montagne. Vous aimez les moutons, vous aimez les alpages,
oui.
Vous aimez l'estive, alors ce film est pour vous. C'est Berger, au pluriel, le nouveau film de Sophie Deraspe, avec Félix-Antoine Duval, Solène Rigaud et Guylaine Londez. Sur un coup de tête, Mathias troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre quand même un métier difficile, éreintant, et puis des éleveurs souvent à bout, hein, c'est un métier très difficile. Mais quand il rencontre Élise, qui elle aussi vient de tout quitter, il se voit confier un troupeau de 800 moutons hein, et s'engage dans une transhumance. Et ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle. Imaginez un plan sur une montagne. Et donc c'est avec ce sentiment, ce plaisant sentiment d'être un peu déboussolé par rapport à notre vie réelle, que l'on rentre dans Berger, pour suivre donc cette reconversion professionnelle de fameux Mathias, qui plaque tout pour devenir berger, qu'on est rire au métier, mais bon, tant pis, part dans le sud de la France. Le film balaie rapidement les inquiétudes d'une idéalisation folklorique des métiers proches de la nature. Après deux expériences laborieuses, le Québécois trouvera enfin le travail qu'il cherchait aux côtés donc d'Élise. Le film donc signé Sophie Deraspe, on avait beaucoup aimé Antigone, hein, rappelez-vous, un film à revoir si vous ne l'avez pas vu, tire alors sa beauté de la manière hein, dont il se fait déborder par sa propre matière, l'humain, puis les grands espaces bien sûr, et puis cette marée de moutons comme ça qui remplissent le cadre avec beaucoup, beaucoup d'aisance. Alors dommage, petit bémol, parce que dommage que le film laisse une impression qui est balayée par un final assez abrupt et amer, laissant inachevé un parcours d'une panoplie de personnages avec qui on aurait bien passé un été en montagne. Là aussi, petite revue de presse. Abus de Ciné a bien aimé ce film. Un retour à la nature pas si facile pour une comédie réaliste et touchante. Télérama a bien aimé aussi. Le film a un petit côté Martine à l'estive qui peut prêter à sourire, mais au fil du récit, les clichés s'estompent pour ne rien cacher de l'âpreté du pastoralisme. Gros bémol pour Libération. Un clip d'Office du Tourisme, grandeur nature. Avec un dixième pas Libération, ça cartonne. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir D'où Jésus de Frédéric Hirin avec Isabelle Nanty et Marie-Lou Berry. C'est l'histoire de Sœur Lucie qui décide de fuir son couvent pour retrouver son amour de jeunesse. Elle va se confronter à notre monde moderne. On peut voir aussi Zion de Nelson Foy, un film qu'on peut voir au CGR Blagnac ou au Pâté La Belge. C'est un thriller guadeloupéen. On peut voir aussi À la lueur de la chandelle d'André-Gilles Mata. L'américain cosmographe, c'est un film portugais. La jeune fille à l'aiguille de Magnus Van Horn au Grand Palais à Cahors. Voyage avec mon père de Julia Von Heinz, qu'on peut voir au CGR Le Paris à Montauban ou à l'ABC à Toulouse. On peut voir un polar piégé de David Yarowski avec l'inoxydable Anthony Hopkins. On peut voir aussi un autre polar, c'est The Amateur, James Howie, avec Rami Malek. Rappelez-vous, c'est cet acteur qui a incarné...
Queen.
Qui a incarné, oui, dans Queen.
Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody.
Le nom m'échappait. Et puis pour les tout petits, Moon le Panda, des 6 ans, un film de Gilles Demestre avec Alexandra Lamy. On peut voir aussi Masha et Mishka au cinéma, hein, Parc des Merveilles et autres aventures. Et un film animé des 6 ans, c'est Dogman de Peter Hastings. Superfly, super good, shoulda, coulda, knew I would. Superfly, super fresh, ask your mama, she's impressed. Superfly, super cold, super mean, super nice, super clean. Yeah, you know what? So good. Yeah, we're always so good. So good. Like I'm Frito-Lay, crispy golden creme brulee, rare, like a T-bone steak. I'm good, I'm good, I'm great, I'm better than okay. I'm like, ooh, sometimes it takes two, never lacking anything we do, that's my crew, I got it, you got it, we got it, yeah, you know we're so good. Yeah, we're always so good, so good. Taking dubs, bake the cake and I rake it up. Make it rain, I shovel love. Gravy train, come say what's up. Stay popping, the place hopping. And we got the place hopping. It ain't stopping. We be like, ooh. Sometimes it takes two. Never lacking anything we do. That's my crew. I got it, you got it, we got it. Yeah, you know what? So good. Yeah, we're always so good. So good, baby. Y'all ever heard a producer freestyle?
Super, non, oui, c'est super. Young Gravy, c'est le nom du chanteur qui passe à la moulinette. James Brown est So Good et ça s'appelle Super Good. Eh oui, fastoche. Et dans quel film peut-on entendre cette fabuleuse chanson qui claque? Eh bien, c'est dans Dogman, le film d'animation de Peter Hastings. C'est complètement délirant puisque il adapte une BD de Dave Pilkey. Vous savez, c'est l'auteur de Capitaine Super Sleep aussi. Et Dogman, c'est complètement délirant. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'histoire d'un flic et de son partenaire chien, hein, qui fait partie de la brigade canine. Mais voilà que dans une poursuite qui l'oppose à mon petit, le chat diabolique, une bombe explose et les voilà grièvement blessés tous les deux. Et grâce à une opération complètement délirante, c'est le cas de le dire, ils vont être
fondu en un seul personnage. Il reste la tête du chien et le corps de l'homme. Et ça devient Dogman, le chien super flic. Et ça va faire mal. Parce que il va falloir affronter mon petit, mais c'est surtout Bubule qui est redoutable. C'est un poisson cyborg au pouvoir psychique. C'est affreux. C'est un film extraordinaire. Et c'est décisant. Ah non, non, il faut aller voir ça, le poisson cyborg.
Il a une mémoire de 3 secondes, comme le poisson rouge.
Oh non, plus, il est redoutable.
Il y a une sorte de chaton aussi, non ?
Il est, et oui, alors le chaton, c'est facile, puisque c'est le clone de mon petit, il s'appelle Petit Mon Petit.
Ah, c'est délirant, ça. C'est à voir, oui.
Bah, c'est délirant. Dans la version originale, c'est Ricky Gervais.
Je sais pas ce qu'ils avaient pris pour faire ça, mais...
C'est Ricky... Ah, c'est... Ah, ben... de la bonne. C'est Ricky Gervais qui prête sa voix à Bubule.
Ah, oui. Et qui Gervais.
Ouais, il est...
Il a arrêté les glaces, il fait ça.
Il a arrêté les glaces, il fait ça. Bon, voilà, tout est dit sur Sup Good de Young Gravy. Ça claque.
Ah, vous m'avez donné envie, là.
Ah oui, oui, non, mais il faut y aller. Il faut courir. Il faut courir.
Dès 6 ans, on peut voir ça.
Dès 6 ans, parce qu'il y a des références cinématographiques que les grands apprécieront moins les petits. Et puis, il y a les gags façon Looney Tunes. On est chez Bugs Bunny, quoi.
D'accord.
Avec un graphisme différent, attention. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est fun. Ça claque. C'est pas long. Ça dure un peu plus d'une heure, bien sûr. Mais s'appelait déjà petit jusqu'à grand comme ça. Et puis en plus, il y a cette musique, parce qu'il y a celle-là, mais il y en a d'autres encore. La BO est redoutablement efficace. Voilà, tout est dit à propos de Dogman. Et là, on retrouve notre ami Grégory Com qui va nous parler dans son tribunal des séries de 1923, le préquel de la série Yellowstone, à voir sur Paramount+.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, aujourd'hui je vais vous parler de la série télévisée 1923 que vous pouvez retrouver sur Paramount+. Alors, Paramount+, vous pouvez vous y abonner directement ou, si vous avez Prime Vidéo, souscrire à un abonnement complémentaire. Voilà, petite anecdote parce que c'est un peu compliqué de trouver Paramount+, et je tenais à dire ça au départ. Alors, quelle est cette série et pourquoi je la trouve exceptionnelle ? 1923 fait partie de l'univers étendu de la série Yellowstone. Yellowstone, série avec Kevin Costner qui a débarqué sur Netflix. Et je vais tout vous expliquer pour pouvoir voir en entier la fresque historique qu'a créée Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, vous le savez, c'est un réalisateur et un scénariste que j'adore, qui est de très très bon niveau, qui a fait notamment Command Sheria, Wind River et aussi beaucoup de séries à succès. Il a d'abord créé la série Yellowstone qui raconte l'histoire d'une famille qui se bat pour gérer un ranch près du Lake Yellowstone. Mais il a décidé d'étendre son univers. Je vous avais déjà parlé de la série préquelle, la mini-série 1883, qui est comment sa famille est arrivée à cet endroit-là et a pris possession de ses terres. Série extraordinaire, qui est aussi sur Netflix et Paramount+. Je vous la conseille vraiment. Mais je vais pas revenir dessus parce que je vous l'avais déjà conseillé énormément. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série 1923, donc qui arrive après la série 1883 et qui est toujours préquel à Yellowstone. Il y aura une autre série d'ailleurs qui s'appellera 1944. Cette série 1923, c'est une série en 2 saisons. Elle était prévue en 2 saisons et c'est très bien, ça permet de faire vraiment un scénario resserré. Et elle va raconter comment la famille, une fois établie suite aux événements de 1883, essaye de s'en sortir, notamment par rapport à des personnes qui veulent voler leurs terres. Déjà, le casting est extraordinaire. Avoir ce casting-là pour une série, moi, j'en reviens pas. Hélène Mirren, qui fait Cara Dutton, la matriarche. Harrison Ford, qui fait Jacob Dutton. Voilà, vous avez Hélène Mirren et Harrison Ford dans la même série. Et ensuite, tout le reste du casting est exceptionnel et va amener une profondeur assez incroyable. On a même Timothy Dalton en antagoniste. Moi, j'adore. Je me suis régalé. Alors, donc, je résume à nouveau. 1923, dans le Montana, une autre génération de la famille Dutton, menée par le patriarche, donc Harrison Ford, et son épouse, Hélène Mirren, vit une époque de difficultés en tout genre, parce qu'on est juste après la Grande Dépression, et on est après des pandémies et la prohibition. Et là, je vais être honnête avec vous, vous n'allez pas souvent rigoler dans cette série. C'est une série sombre, c'est une série violente et sans concession. Elle vous montre de façon non idéalisée la dureté de la vie dans les années 20 dans ces endroits reculés américains. Il y a des moments quand même touchants, il y a des moments puissants, mais il y a aussi beaucoup de moments tragiques. Et clairement, nous sommes dans un western, mais pas un western idéalisé. On est avec des cow-boys qui tentent tant bien que mal de gérer leur vache face aux pillards, mais face aussi à de grands financiers qui essayent de prendre leur terre. On voit à quel point ces gens-là ont dû lutter et à quel point ils ont souffert. Mais, et c'est ça aussi que je trouve très intéressant, on a aussi une vision très forte de comment les Américains ont traité les Indiens. Et là aussi, on est sans concession et je trouve ça excellent parce que l'histoire au départ, qui semble être une histoire parallèle, se mêle parfaitement avec le contexte de la série. Donc, bravo. Encore une fois, c'est extrêmement bien écrit. On n'est pas dans du wokisme. Taylor Sheridan, c'est l'anti-wok. Mais par contre, il va traiter de tous les sujets avec une, je dirais, une sensibilité incroyable. Le droit des femmes à cette époque, le droit des minorités, la difficulté des gens qui travaillent la terre. On a un compteur exceptionnel. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de regarder 1883, que vous pouvez avoir sur Netflix et Paramount+, d'ensuite regarder 1923, que vous n'avez que sur Paramount+, et après, d'embrayer sur Yellowstone, qui est terminé, on en parlera un jour aussi, qui est sur Netflix et Paramount+. Voilà, il n'y a que 1923 qui vous demande de passer par Paramount+, mais vraiment, ça vaut le coup. Donc, chers auditeurs, votre temps est précieux, et vous vous en doutez, je vous conseille vraiment de le dépenser devant 1923, c'est excellent.
Voilà ce que c'est d'allumer le micro trop tôt. À l'instant, c'était Grégory Combe qui vous parlait de 1923 et vous avez compris qu'il faut regarder la série sur Paramount+. Vous avez noté, parce que c'est compliqué pour tout rattraper, les séries, et tout remettre dans le bon ordre et savoir sur quelle plateforme on peut regarder tout ça. Dans cette série remarquable, je le rappelle qu'il y a Harrison Ford et Hélène Mirren. C'est Brian Tyler et Bretton Vivian qui ont composé la bande originale de la série 1923. Et ça claque comme ces films qui, vous savez, on y est dans les grands espaces et ces familles qui s'installent. Bah, c'est épique.
Thank you.
Décidément, le micro n'a pas beaucoup de chance avec moi ce soir. Imaginez-vous dans un escalier. Ces escaliers dont on peut voir le haut et le bas.
Un escalier qui monte ou qui descend ?
Alors là, c'est une bonne question. Je crois qu'il fait les deux.
Il fait les deux.
Ah. Il fait les deux. Il fait les deux. Et dans cet escalier descend un homme qui fuit la police. Mmh. Et pour cause, il est accusé de meurtre. Il a été condamné à mort. Et il est poursuivi parce qu'il a réussi à s'échapper. C'est un fugitif. Et le policier qui le pourchasse l'a reconnu. Et les voilà partis. La cavalcade. La cavalcade dans les escaliers. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce titre s'appelle Stairway Chase. Chase. Et vous avez reconnu l'argument du fugitif, bien sûr, le film qui est en fait l'adaptation d'une série à succès qui fut diffusée dans les années 60, de 63 à 67.
Oui.
Le fugitif, c'est en 93, pratiquement 30 ans plus tard, qu'il devient un film avec Harrison Ford, toujours lui, dans le rôle du fugitif, et en fait, dans le rôle du docteur Richard Kimball.
Oui. Qui poursuit un
manchot.
Un manchot.
Dont il est sûr qu'il a tué
pas sa femme. Pas l'animal, un homme qui n'a qu'un bras.
Dont il est sûr qu'il a tué sa femme.
Oui.
Mais personne ne le croit, et surtout pas la police. Et il est pourchassé par Sam Gerard, le chef d'une équipe de Marshall impitoyable.
Ah oui. Ce chef. Son fort pour retrouver sa piste en plus.
C'est Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones,
Harrison Ford reprend de plus belle grâce à ce film, et Tommy Lee Jones assoit son aura internationale avec un film comme celui-là. Ça pétarade de tous les côtés. Dans la série, Richard Kimball, on ne sait pas s'il a réussi à choper dans le dernier épisode, mais ça a été long, hein, il a fallu 4 ans. Là, c'est beaucoup plus court, puisqu'on est un peu plus de 2 heures. Et ça marche diablement bien, et ça fonctionne.
Il n'y a pas de temps mort, c'est
non,
une action pure.
Pure et dure. Alors, vous pouvez le voir en VO. C'est lundi prochain, 14 avril, à 21h, au cinéma Pathé la Belge. Et un autre film qui est aussi, lui, a ses adeptes et pour cause, mais pas pour la même raison que Le Fugitif. Le Fugitif, c'est une série devenu film, et là c'est un personnage de sketch devenu personnage de film. Brise de Nice,
ah oui,
le film de James Hutt, personnage créé par Jean Dujardin et qui devient un personnage de film grâce à James Hunt, et toujours Jean Dujardin qui interprète le rôle de Brice de Nice qui cherche la vague à Nice, puisqu'il est surfeur. On peine avec lui pour trouver la vague, et de temps en temps il va voir son copain Igor à Osgore.
Oui.
Où c'est Igor d'Osgore, il se tire la bourre parce que c'est
Vous nous racontez un chef-d'œuvre, là, en fait.
Oui.
C'est pas un film de la Nouvelle Vague. Hein.
Joli.
Pardon. Non, c'est pas un film de la Nouvelle Vague. Alors, vous pouvez voir le film parce que le film ressort d'une certaine façon dans différentes salles. Alors, ce sera toujours le jeudi, c'est-à-dire demain, 10 avril, toujours à 20h, et vous irez voir le film au Pathé Wilson ou au CGR de Rodez, sans compter le Pathé la Belge aussi. Et c'est le même jour pour tous. Alors guettez, peut-être qu'il est dans un cinéma près de chez vous, Brise de Nice, c'est-à-dire demain, jeudi 10 avril, à 20h. C'est la même heure pour tous. On continue notre petit tour d'horizon des films à découvrir, à redécouvrir sur le grand écran. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Très célèbre ce morceau dans les années 60, hein, oui, c'était il y a bien longtemps, en 69, fin des années 60. Ce virage, le groupe, c'est Steppenwolf. Qu'est-ce qu'on a aimé, Steppenwolf. Et Born to be Wild, né pour être sauvage. Mais qui était né pour être sauvage, dites-moi. Vous vous en souvenez?
Mais vous.
Ben
sur,
oui.
Sur votre chopper, votre oui. Harley, vous aviez des cheveux à l'époque.
Et exactement.
Très
drôle. En compagnie de Peter Fonda et de Dennis Hopper, qui parcourent les routes états-uniennes sur leur chopper légendaire, un film légendaire qui révéla aussi un jeune acteur assez qui a eu une belle carrière après, Jack Nicholson.
Ah oui, c'est vrai.
Et Nicholson, qui à un moment fait un bout de chemin avec eux et ça finit très mal pour lui d'ailleurs. C'est un film dramatique, même si
oui, c'est vrai,
il a des atours un peu d'aventurier, road movie forcément, ouais, mais il cherche ces deux-là. Notez que le film quand même est interdit aux mineurs de moins de 12 ans à sa sortie. On le rappelle encore. Et alors on en parle ce soir parce que pour que vous puissiez le voir, il faudra attendre mercredi prochain, 16 avril. Ça sera pendant l'émission à 19h30. Mais si vous allez voir Easy Rider, parce que c'est le titre du film, on vous pardonne.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Mais c'est Rocky! Ouais, Rocky, t'as oublié tes gants? Eh les mecs, qu'est-ce qui se passe?
Enlève ton pied de la table, Bagou.
Ça vous a. Qu'est-ce qu'il y a, les mecs? Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est le week-end anti-nucléaire ou quoi? Eh, réveillez-vous! C'est notre dernier week-end ensemble! Le dernier week-end des Goonies! Faut que la bande finisse en beauté, quoi! On drague en 4x4? On sniffe un peu de coke? On descend quelques bières? Mais non! Il a fallu que le grand frère fasse tout foirer en loupant son permis de conduire.
Il a loupé son permis de conduire et la musique aussi. C'est Cyndi Lauper qui chantait la BO des Goonies. De Richard Donner à Mickey, Choco, Bagou, Data, qui, vous l'avez compris, est une bande de copains qui se réunissent pour la dernière fois parce que leur quartier va disparaître, racheté par un gros promoteur qui veut faire des maisons de luxe et ils vont partir à la chasse au trésor. C'est vrai, c'est extraordinaire. Une espèce de gros monstre. Et ça cartonne.
Ah oui, très bien, oui, oui. Avec un bateau englouti, le trésor,
ouais,
les méchants.
Oui, oui.
Ouais, et un film de jeunes, ouais.
Et les acteurs sont formidables, ils ont grandi et sont devenus des vedettes, Sean Astin,
pour certains, ouais.
Josh Brolin, ouais. Corey Feldman, entre autres. C'est remarquable. Alors les Goonies, vous pouvez voir le film dans le cadre de Cinémino. Et oui, il y a une programmation qui concerne un festival. Un festival qui propose des films aux tout jeunes spectateurs. Cinémino 2025, dont Goonies fait partie. Mais il n'y a pas que ça, les Goonies. Alors les Goonies, que vous pourrez voir lundi prochain, 14 avril à 16h30. Sinon, allez sur le site de l'ABC Toulouse, abc-toulouse.fr. Vous aurez le programme complet. Il y a Riddle of Fire, les Goonies. Il y a Colargol et le cirque Pimoulu, Dounia et le Grand Pays Blanc, Nous Voilà Grands, Paddington au Pérou, le Royaume des Abysses. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et sous toutes ses formes. Et puis, on va pas bouder notre plaisir. Les Goonies, on les a aimés et on continuera à les aimer. On a parlé de la galaxie Varda avec vous, Guillaume Sidom et Cléo de 5 à 7, d'Agnès Varda. On a parlé encore de la galaxie Varda avec Easy Rider, puisque c'est dans le cadre de la galaxie Varda que le film est programmé. Mais nous sommes des partenaires de films noirs. Et le film noir qu'il faut aller voir vendredi 11 avril à 18h30, c'est 100% Sang pour Sang, hein, c'est comme ça. Blood Simple, le premier film des frères Cohen, c'est une tuerie, c'est le cas de le dire. Ça part dans tous les sens, histoire d'un type qui achète le patron d'un bar, qui soupçonne sa femme d'avoir un amant et qui engage un privé pour les tuer. Et il veut les tuer tous les deux. Et puis le privé, au moment où il a touché la prime, eh ben il flingue le patron du bar. sauf que le corps disparaît. Alors voilà, on est parti dans tous les sens. Ça aussi, c'est un monument à voir. Et lui aussi est interdit, était interdit au moins de 12 ans au moment de sa sortie. C'est vendredi 11 avril 2025, 18h30. Et alors, on va remonter le temps, mais largement, pour partir en 1942, un film proposé par Vive le cinéma à Muret, au VO de Muret, dimanche prochain, 13 avril à 18h20. C'est Ernst Lubitsch et To Be or Not To Be, vous savez, cette fameuse compagnie théâtrale qui va devoir se faire passer pour des nazis, puisque ça se passe donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands vont envahir la Pologne, et pour empêcher que les résistants polonais ne soient massacrés, un parachutiste vient des îles britanniques, et les comédiens vont en prenant des costumes de SS, arriver à tromper la Gestapo et arriver à leur fin. Il y en a même un qui ressemble à Hitler, c'est vous dire. Et ça marche. Il n'y a que Ernst Lubitsch qui pouvait faire ça. Ça s'appelle To Be or Not To Be. 18h20 au VO de Muret. Et puis sinon, un grand classique. Alors lui, il est de 64. Comme savaient si bien les faire les Américains, la chute de l'Empire romain. Anthony Mann, Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason. On arrête la liste, elle est gigantesque et une fresque historique, le moment où l'Empire romain décline. Vous pouvez voir le film dans sa version originale, mardi prochain, 15 avril à 20h, au Cégère Rodez, dans le cadre de ses plans cultes. C'est à vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir, sur Arte à 20h55, avec Vanilla Sky, film de Cameron Crowe avec Tom Cruise et Penelope Cruz. En prison, David Ames raconte son histoire au docteur McCabe, qui surveille attentivement la santé du détenu. Homme comblé, David était autrefois à la tête d'une importante maison d'édition à New York. Perdu entre cauchemars et fantasmes, Tom Cruise réussit une émouvante prestation dans ce thriller prenant et très bien ficelé. Vendredi sur France 5, 21h, on pourra revoir Chao Pantin de Claude Berry avec Coluche et Richard Anconina. Histoire de Lambert qui est pompiste de nuit dans une station-service, et chaque soir il noie dans le rhum sa solitude et sa tristesse. Une nuit, il voit arriver un jeune homme aux abois. Les deux hommes se lient d'affection. Cette description lucide d'un quotidien sordide fait mouche grâce à la superbe composition de Coluche. Lundi, Arte, 20h55, ce sera Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears avec Glenn Close, John Malkovich, un casting 5 étoiles. Nous sommes dans le Paris de 1780. La marquise de Merfeuil ne décolère pas contre le comte de Bastide, un ancien amant qui doit prochainement épouser la jeune et innocente Cécile de Volanges. En guise de vengeance, l'intrigante demande au libertin vicomte de Valmont de séduire la jeune femme. Une adaptation étincelante du roman de Chader l'eau de Laclos, grâce à une mise en scène inspirée et une interprétation exceptionnelle, vraiment aux petits oignons, comme on dit. Le conseil Blu-ray DVD, il est tout chaud, attention, c'est Conclave d'Edouard Berger, je sais pas comment on dit, avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci, l'incroyable Isabella Rossellini. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur, et il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant que nouveau pape ne soit choisi. Voilà, un excellent thriller papal qui nous fait visiter les coulisses du Vatican. Un film que vous pouvez retrouver aux éditions M6 Vidéo pour une petite vingtaine d'euros. Voilà, pour le cinéma à la télévision, cette semaine.
Ça remonte à quand, dis-moi, la dernière fois que tu t'es intéressé à autre chose qu'à ta petite personne?
Cars.
Oui. Mais ça vous était destiné malgré tout.
Oui, je sais.
C'est Philippe Bro qui a composé la bande originale du film de Sophie Desrapes. Je sais pas, c'est comme ça qu'il faut dire, ou Desrapes. La réalisatrice de Berger. Quelques petites infos avant de tirer le rideau de fer. Festival Ciné-Travail, la belle ouvrage du 10 avril au 4 mai. C'est la première édition de ce festival qui se tiendra au Cinéma Utopia de Bordeaux-Rouge. Et ça commence demain à 20h sur les chapeaux de roue avec Sorry We Missed You. quand Ken Loach passe au crible, vous savez, les temps, la pression mise par ces livreurs. On parle pas des ceux qui livrent les repas, là. On parle des livreurs en camionnette qui ont à livrer ces commandes qu'on fait sur Internet et qui doivent arriver dans les temps. Oui. C'est une horreur terrible, décrite de façon admirable et sublime par Ken Loach. Et c'est dur et c'est poignant. Et évidemment, ça finit pas bien. Ça s'appelle donc Sorry We Missed You, premier film qui est prévu dans le cadre de La Belle Ouvrage, le festival Ciné-Travail à Utopia Bordeaux Rouge. Ça commence demain et ça finit le 4 mai. cinéma-utopia.org et cherchez Toulouse et vous aurez toutes les infos. Et puis au cinéma ABC à Toulouse, une séance spéciale demain, jeudi 10 avril à 20h30. En présence des artistes de la compagnie catalane Cabos en Rock, Canto Cosmico de Marc Sempere Moya et Leri Apelianis. C'est organisé dans le cadre des objets catalans non identifiés. Pardon, ça se passe du 1er au 12 avril, en partenariat avec le Théâtre Garonne et Cinespagna. Oui, ça va être redoutablement sympa demain à l'ABC, jeudi 10 à 20h30.
Couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu.
Fallait s'appeler Nino Ferrer pour faire une bossa nova d'une chanson particulièrement dramatique, La Rua Madureira, qu'on n'arrête pas d'entendre dans le film de Baya Kasmi, à la fois par son interprète original, mais aussi par ses personnages qui la chantent. C'est extraordinaire et ça colle merveilleusement bien au film de Baya Kasmi, Mikado.
À l'aéroport, tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel.
Allez, séchez vos larmes, messieurs, le moment est venu de nous donner vos coups de cœur. Eh oui, c'est terrible cette chanson. Il n'oubliera jamais la baie de Rio qu'il n'a jamais vue.
C'est vrai.
C'est extraordinaire.
Je ne la connaissais pas, cette chanson.
Elle est magnifique.
Magnifique, ouais.
Magnifique. Laurent, quels sont vos coups de cœur?
Le coup de cœur, ce sera pour Mikado, Berger et Vous m'avez donné envie de voir Dogman, film d'animation dès 6 ans.
Eh oui. Et vous?
Mikado, Dogman aussi. À la Cinémathèque, le film noir, vous pouvez gagner vos invitations pour deux personnes en envoyant vos noms, prénoms à cinéma@radioprésence.com. La Galaxie, Varda évidemment, et puis Easy Rider.
Ah bah oui, Easy Rider, of course, on chante, on se met sur le porte-bagages, même s'ils en ont pas, on prend une autre moto, on les suit. Alors pour moi, ce sera Mikado, comme vous. À la lueur de la chandelle, le film d'André Gilles Mata, qui était film portugais, vous en avez parlé, Laurent, qui était présenté au dernier Festival Ciné España en octobre dernier. C'est un film qui se distingue par son ambiance formelle, qui est centrée sur la lumière. Hein. On est dans une maison bourgeoise du nord du Portugal. Alzira et Béatrice cohabitent dans cette maison depuis plus de 60 ans. L'une était la maîtresse de maison, de la demeure, c'est Alzira. L'autre était sa domestique, Béatrice. Et ce huis clos devient le théâtre d'une exploration du temps et de la mémoire. Les époques se confondent grâce à un montage qui est particulièrement bien fichu et qui joue avec la chronologie. C'est magnifique, c'est lent. Il faut se laisser prendre par les images, mais ça reste très beau. À la lueur de la chandelle, André Gilles Mata et puis Dogman. Eh oui, Dogman, il est bien Dogman. Oh, moi, je veux le voir.
L'homme chien.
Super fille. Super. Alors, c'est le chien. C'est super chien. Hein. C'est, super chien. C'est pas un homme. C'est un chien qui a un corps d'homme. C'est Robocop, quoi.
Ah oui. À voir.
50% homme, 50% chien. Complètement flic. Écoutez, messieurs, tout a été dit sur ce qu'il faut aller voir à la Cinémathèque. Et puis, merci d'avoir été là ce soir, tous les deux.
Voilà, nous allons aboyer un au revoir et à mercredi.
À mercredi. Mercredi, on parlera de Festival du cinéma indien. Et ça, c'est encore la musique de Dogman. À 20h, Nathalie Cardon, restez fidèle à présence et allez au cinéma.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr.